François de Salignac de la Motte Fénelon, Les aventures d'Aristonoüs. Sophronime, ayant perdu les biens de ses ancêtres par des naufrages et par d'autres malheurs, s'en consolait par sa vertu dans l'île de Délos. Là, il chantait sur une lyre d'or les merveilles du dieu qu'on y adore. Il cultivait les muses dont il était aimé. Il recherchait curieusement tous les secrets de la nature, le cours des astres et des cieux, l'ordre des éléments, la structure de l'univers qu'il mesurait de son compas, la vertu des plantes, la conformation des animaux, mais surtout, il s'étudiait lui-même et s'appliquait à orner son âme par la vertu. Ainsi, la fortune, en voulant l'abattre, l'avait élevé à la véritable gloire qui est celle de la sagesse. Pendant qu'il vivait heureux, sans bien dans cette retraite, il aperçut un jour, sur le rivage de la mer, un vieillard vénérable qui lui était inconnu. C'était un étranger qui venait d'aborder dans l'île. Ce vieillard admirait les bords de la mer dans laquelle il savait que cette île avait été autrefois flottante. Il considérait cette côte où s'élevaient au-dessus des sables et des rochers de petites collines toujours couvertes d'un gazon naissant et fleuri. Il ne pouvait assez regarder les fontaines pures et les ruisseaux rapides qui arrosaient ces délicieuses campagnes. Il s'avançait vers les bocages sacrés qui environnaient le temple du dieu. Il était étonné de voir cette verdure que les aquilons n'osent jamais tenir, ternir, et il considérait déjà le temple d'un marbre de Paros plus blanc que la neige environné de hautes colonnes de jaspe. Sophronime n'était pas moins attentif à considérer ce vieillard. Sa barbe blanche tombait sur sa poitrine. Son visage ridé n'avait rien de difforme. Il était encore exempt des injures d'une vieillesse caduque. Ses yeux montraient une douce vivacité. Sa taille était haute et majestueuse, mais un peu courbée, et un bâton d'ivoire le soutenait. « Ô étranger, lui dit Sophronime, que cherchez-vous dans cette île qui paraît vous être inconnue? Si c'est le temple du dieu, vous le voyez de loin, et je m'offre de vous y conduire, car je crains les dieux et j'ai appris ce que Jupiter veut qu'on fasse pour secourir les étrangers. » « J'accepte, répondit le vieillard, l'offre que vous me faites avec tant de marques de bonté. Je prie les dieux de récompenser votre amour pour les étrangers. Allons vers le temple. » Dans le chemin, il raconta à Sophronime le sujet de son voyage. « Je m'appelle, dit-il, Aristonoüs, natif de Clazomène, ville d'Ionie, située sur cette côte agréable qui s'avance dans la mer et semble s'aller joindre à l'île de Chios, forte des patries d'Homère. Je naquis de parents pauvres, quoique nobles. Mon père, nommé Polystrate, qui était déjà chargé d'une nombreuse famille, ne voulut point m'élever. Il me fit exposer par un de ses amis de Théos. Une vieille femme d'Érythrée, qui avait du bien auprès du lieu où l'on m'exposa, me nourrit de lait de chèvre dans sa maison. Mais comme elle avait à peine de quoi vivre, dès que je fus en âge de servir, elle me vendit à un marchand d'esclaves qui me mena dans la Lycie. Il me vendit à Pata, un homme riche et vertueux, nommé Alcine. Cet Alcine eut soin de moi dans ma jeunesse. Je lui parus docile, modéré, sincère, affectionné et appliqué à toutes les choses honnêtes dont on voulut m'instruire. Il me dévoua aux arts qu'Apollon favorise. Il me fit apprendre la musique, les exercices du corps et surtout l'art de guérir les plaies des hommes. J'acquis bientôt une assez grande réputation dans cet art qui est si nécessaire et Apollon, qui m'inspira, me découvrit des secrets merveilleux. Alcine, qui m'aimait de plus en plus et qui était ravi de voir le succès de ses soins pour moi, m'affranchit et m'envoya à Polycrate, tyran de Samos, qui, dans son incroyable félicité, craignait toujours que la fortune, après l'avoir si longtemps flatté, ne le trahît cruellement. Il aimait la vie qui était pour lui pleine de délices. Il craignait de la perdre et voulait prévenir les moindres apparences de maux. Mais il était toujours environné des hommes les plus célèbres dans la médecine. Polycrate fut ravi que je voulusse passer ma vie auprès de lui pour m'y attacher. Il me donna de grandes richesses et me combla d'honneur. Je demeurai longtemps à Samos, où je ne pouvais assez m'étonner de voir que la fortune semblait prendre plaisir de le servir, selon tous ses désirs. Et il suffisait qu'il entreprît une guerre, la victoire suivait de très près. Il n'avait qu'à vouloir les choses les plus difficiles, elles se faisaient d'abord comme d'elles-mêmes. Ses richesses immenses multipliaient tous les jours. Tous ses ennemis étaient à ses pieds. Et sa santé, loin de diminuer, devenait chaque jour plus forte et plus égale. Il y avait déjà 40 ans que ce tyran, tranquille et heureux, tenait la fortune comme enchaînée, sans qu'elle osât jamais le démentir en rien, ni lui causer le moindre mécompte dans tous ses desseins. Une prospérité si inouïe parmi les hommes me faisait peur pour lui. Je l'aimais sincèrement, et je ne pus m'empêcher de lui découvrir ma crainte. Elle fit impression dans son cœur, car encore qu'il fût amolli par les délices et enorgueilli de sa puissance, il ne laissait pas d'avoir un peu d'humanité quand on le faisait ressouvenir des dieux et de l'inconstance des choses humaines. Il souffrit que je lui dise la vérité, et il fut si touché de ma crainte pour lui, qu'enfin il résolut d'arrêter le cours de ses prospérités par une perte qu'il voulait se préparer lui-même. « Je vois bien, me dit-il, qu'il n'y a point d'homme qui ne doive en sa vie éprouver quelque disgrâce de la fortune. Plus on a été épargné d'elle, plus on a à craindre quelque révolution affreuse. Moi, qu'elle a comblé de bien pendant tant d'années, je dois attendre des maux extrêmes si je ne détourne ce qui me semble me menacer. Je veux donc me hâter de prévenir les trahisons de cette fortune flatteuse. » En disant ces paroles, il tira de son doigt son anneau, qui était d'un très grand prix et qu'il aimait fort, et il le jeta en ma présence, du haut d'une tour, dans la mer, espérant par cette perte d'avoir satisfait à la nécessité de subir, du moins une fois en sa vie, les rigueurs de la fortune. Mais c'était un aveuglement causé par sa prospérité. Les mots qu'on choisit et qu'on se fait soi-même ne sont plus des mots. Nous ne sommes affligés que par les peines forcées et imprévues dont les dieux nous frappent. Polycrate ne savait pas que le vrai moyen de prévenir la fortune était de se détacher par sagesse et par modération de tous les biens fragiles qu'elle donne. La fortune à laquelle il voulait sacrifier son anneau n'accepta point ce sacrifice, et Polycrate, malgré lui, parut plus heureux que jamais. Un poisson avait avalé l'anneau. Le poisson avait été pris, porté chez Polycrate, préparé pour être servi à sa table, et l'anneau, trouvé par un cuisinier dans le ventre du poisson, fut rendu au tyran, qui pâlit à la vue d'une fortune si opiniâtre à la défavoriser, mais le temps s'approchait où ses prospérités se devaient changer tout à coup en des adversités affreuses. Le grand roi de Perse, Darius, fils d'Istape, entreprit la guerre contre les Grecs. Il subjugua bientôt toutes les colonies grecques de la côte d'Asie et les îles voisines qui sont dans la mer Égée. Samos fut prise, le tyran fut vaincu, et Oronte, qui commandait pour le grand roi, ayant fait dresser une haute croix, y fit attacher le tyran. Ainsi cet homme, qui avait joui d'une si prodigieuse prospérité, et qui n'avait pu même éprouver le malheur qu'il avait cherché, périt tout à coup par le plus cruel et le plus infâme de tous les supplices. Ainsi, rien ne menace tant les hommes de quelque grand malheur qu'une trop grande prospérité. Cette fortune qui se joue si cruellement des hommes les plus élevés tire aussi de la poussière ceux qui étaient les plus malheureux. Elle avait précipité Polycrate du haut de la roue et elle m'avait fait sortir de la plus misérable de toutes ses conditions pour me donner de grands biens. Les Perses ne me les ôtèrent point. Au contraire, ils firent grand cas de ma science pour guérir les hommes et de la modération avec laquelle j'avais vécu pendant que j'étais en faveur auprès du tyran. Ceux qui avaient abusé de sa confiance et de son autorité furent punis de divers supplices. Comme je n'avais jamais fait de mal à personne, et que j'avais au contraire fait tout le bien que j'avais pu faire, je demeurai le seul que les victorieux épargnèrent et qu'ils traitèrent honorablement. Chacun s'en réjouit car j'étais aimé et j'avais joui de la prospérité sans envie parce que je n'avais montré ni dureté, ni orgueil, ni avidité, ni injustice. Je passai encore à Samos quelques années assez tranquillement, mais je sentis enfin un violent désir de revoir la Lycie où j'avais passé si doucement mon enfance. J'espérais y retrouver Alcine, qui m'avait nourri et qui était le premier auteur de toute ma fortune. En arrivant dans ce pays, j'appris qu'Alcine était mort après avoir perdu ses biens et souffert avec beaucoup de constance les malheurs de la vieillesse. J'allais répandre des fleurs et des larmes sur ses cendres. J'ai mis une inscription honorable sur son tombeau et je demandais ce qu'étaient devenus ses enfants. On me dit que le seul qui était resté, nommé Orsiloc, ne pouvant se résoudre à paraître sans bien dans sa patrie, où son père avait eu tant d'éclat, s'était embarqué dans un vaisseau étranger pour aller mener une vie obscure dans quelque île écartée de la mer. On m'ajouta que cet Orsiloc avait fait naufrage peu de temps après vers l'île de Carpathie et qu'ainsi il ne restait plus rien de la famille de mon bienfaiteur Alcine. Aussitôt, je songeai à acheter la maison où il avait demeuré, avec les champs fertiles qu'il possédait autour. J'étais bien aise de revoir ces lieux qui me rappelaient le doux souvenir d'un âge si agréable et d'un si bon maître. Il me semblait que j'étais encore dans cette fleur de mes premières années où j'avais servi Alcine. À peine eus-je acheté de ses créanciers les biens de sa succession, que je fus obligé d'aller à Clazomène. Mon père Polystrate et ma mère Fidile étaient morts. J'avais plusieurs frères qui vivaient mal ensemble. Aussitôt que je fus arrivé à Clazomène, je me présentai à eux avec un habit simple, comme un homme dépourvu de biens, en leur montrant les marques avec lesquels vous savez qu'on a soin d'exposer les enfants. Ils furent étonnés de voir ainsi augmenter le nombre des héritiers de Polystrate, qui devaient partager sa petite succession. Ils voulurent même contester ma naissance, et ils refusèrent devant les juges de me reconnaître. Alors, pour punir leur inhumanité, je déclarai que je consentais à être comme un étranger pour eux, et je demandai qu'ils fussent aussi exclus pour jamais d'être mes héritiers. Les juges l'ordonnèrent, et alors je montrai les richesses que j'avais apportées dans mon vaisseau. Je leur découvris que j'étais cet Aristonoüs qui avait acquis tant de trésors auprès de Polycrate, tyran de Samos, et que je ne m'étais jamais marié. Mes frères se repentirent de m'avoir traité si injustement, et dans le désir de pouvoir être un jour mes héritiers, ils firent les derniers efforts, mais inutilement, pour s'insinuer dans mon amitié. Leur division fut cause que les biens de notre père furent vendus. Je les achetai, et ils eurent la douleur de voir tout le bien de notre père passer dans les mains de celui à qui ils n'avaient pas voulu en donner la moindre partie. Ainsi, ils tombèrent tous dans une affreuse pauvreté. Mais après qu'ils eurent assez senti leur faute, je voulus leur montrer mon bon naturel. Je leur pardonnai. Je les reçus dans ma maison. Je leur donnai à chacun de quoi gagner du bien dans le commerce de la mer. Je les réunis tous, eux et leurs enfants, demeurèrent ensemble, paisiblement, chez moi. Je devins le père commun de toutes ces différentes familles. Par leur union et par leur application au travail, ils amassèrent bientôt des richesses considérables. Cependant, la vieillesse, comme vous le voyez, est venue frapper à ma porte. Elle a blanchi mes cheveux et ridé mon visage. Elle m'avertit que je ne jouirais pas longtemps d'une si parfaite prospérité. Avant que de mourir, j'ai voulu voir encore une dernière fois cette terre qui m'est si chère et qui me touche plus que ma patrie même, cette Lycie où j'ai appris à être beau et sage sous la conduite du vertueux Alcine. En y repassant par mer, j'ai trouvé un marchand d'une des îles Cyclades qui m'a assuré qu'il restait encore à Délos, un fils d'Orsiloque, qui imitait la sagesse et la vertu de son grand-père Alcine. Alors aussitôt, j'ai quitté la route de Lycie et je me suis hâté de venir chercher, sous les auspices d'Apollon, dans son île, ce précieux reste d'une famille à qui je dois tout. Il me reste peu de temps à vivre, la parque ennemie de ce doux repos que les dieux accordent si rarement aux mortels se hâtera de trancher mes jours, mais je serai content de mourir, pourvu que mes yeux, avant que de se fermer à la lumière, aient vu le petit-fils de mon maître. Parlez maintenant, ô vous qui habitez avec lui dans cette île. Le connaissez-vous? Pouvez-vous me dire où je le trouverai? Si vous me le faites voir, puissent les dieux à récompense vous faire voir sur les genoux les enfants de vos enfants jusqu'à la cinquième génération. Puissent les dieux conserver toute votre maison dans la paix et dans l'abondance, pour fruit de votre vertu. » Pendant qu'Astinoïs se parlait ainsi, Sophronie versait des larmes mêlées de joie et de douleur. Enfin, il se jette sans pouvoir parler au cou du vieillard. Il l'embrasse, il le serre, et il pousse avec peine ses paroles entrecoupées de soupirs. « Mais je suis, ô mon père, celui que vous cherchez. Vous voyez Sophronie, petit-fils de votre ami Alcine. C'est moi, et je ne puis douter en vous écoutant que les dieux ne vous aient envoyé ici pour adoucir mes maux. » La reconnaissance qui semblait perdue sur la terre se retrouve en vous seul. J'avais ouï dire, dans mon enfance, qu'un homme célèbre et riche, établi à Samos, avait été nourri chez mon grand-père. Mais comment Orsiloque, mon père, qui est mort jeune, me laissa au berceau, je n'ai vu ces choses que confusément. Je n'ai osé aller à Samos dans l'incertitude, et j'ai mieux aimé demeurer dans cette île, me consolant dans mes malheurs par le mépris des vaines richesses et par le doux emploi de cultiver les muses dans la maison sacrée d'Apollon. La sagesse, qui accoutume les hommes à se contenter de peu et à être tranquille, m'a tenu lieu jusqu'ici de tous les autres biens. En achevant ces paroles, Sophronie, se voyant arriver au temple, proposa à Anthistonus d'y faire sa prière et ses offrandes. Ils firent au dieu un sacrifice de deux brebis plus blanches que la neige et d'un taureau qui avait un croissant sur le front entre les deux cornes. Ensuite, ils chantèrent des vers en l'honneur du Dieu qui éclaire l'univers, qui règle les saisons, qui préside aux sciences et qui anime le cœur des neuf muses. Au sortir du temple, Sophronie et Aristonoïs passèrent le reste du jour à se raconter leurs aventures. Sophronie reçut chez lui le vieillard avec la tendresse et le respect qu'il aurait témoigné à Alcine lui-même s'il eût été encore vivant. Le lendemain, ils partirent ensemble et firent voile vers la Lycie. Aristonoïs mena Sophronie dans une fertile campagne sur le bord du fleuve Xanthe, dans les zones duquel Apollon, au retour de la chasse, couvert de poussière, a tant de fois plongé son corps et lavé ses beaux cheveux blonds. Ils trouvèrent, le long de ce fleuve, des peupliers, des saules, dont la verdure, tendre et naissante, cachait les nids d'un nombre infini d'oiseaux qui chantaient nuit et jour. Le fleuve, tombant d'un rocher avec beaucoup de bruit et d'écume, brisait ses flots dans un canal plein de petits cailloux. Toute la plaine était couverte de moissons dorés. Les collines qui s'élevaient en amphithéâtre étaient chargées de ceps de vigne et d'arbres fruitiers. Là, toute la nature était riante et gracieuse. Le ciel était doux et serein, et la terre, toujours prête à tirer de son sein de nouvelles richesses pour payer les peines du laboureur. En s'avançant le long du fleuve, Sophronib aperçut une maison simple et médiocre, mais d'une architecture agréable, avec de justes proportions. Il n'y trouva ni marbre, ni or, ni argent, ni ivoire, ni meubles de pourpre. Mais tout y était propre et plein d'agréments et de commodités sans magnificence. Une fontaine coulait au milieu de la cour et formait un petit canal le long d'un tapis vert. Les jardins n'étaient point vastes. On y voyait des fruits et des plantes utiles pour nourrir les hommes. Aux deux côtés du jardin paraissaient deux bocages dont les arbres étaient presque aussi anciens que la terre leur mère, et dont les rameaux épais faisaient une ombre impénétrable aux rayons du soleil. Ils entrèrent dans un salon où ils firent un doux repas des mets que la nature fournissait dans les jardins, et on n'y voyait rien de ce que la délicatesse des hommes va chercher si loin et si chèrement dans les villes. C'était du lait aussi doux que celui d'Apollon avait soin de traire pendant qu'il était berger chez le roi Admet. C'était du miel plus exquis que celui des abeilles d'Ibla en Sicile ou du mont Hymette dans l'Attique. Il y avait des légumes du jardin et des fruits qu'on venait de cueillir. Un vin plus délicieux que le nectar coulait de grands vases dans les coupes ciselées. Pendant ce repas frugal mais doux et tranquille, Aristonoüs ne voulut point se mettre à table. D'abord, il fit ce qu'il put, sous divers prétextes, pour cacher sa modestie, mais enfin, comme Sophronib voulut le presser, il déclara qu'il ne se résoudrait jamais à manger avec le petit-fils d'Alcine, qu'il avait si longtemps servi dans la même salle. « Voilà, lui disait-il, où ce sage vieillard avait accoutumé de manger. Voilà où il conversait avec ses amis. Voilà où il jouait à divers jeux. Voici où il se promenait en lisant Hésiode et Homère. Voici où il se reposait la nuit. » En rappelant ces circonstances, son cœur s'attendrissait et les larmes coulaient de ses yeux. Après le repas, il mena Sophronib voir la belle prairie où erraient ses grands troupeaux mugissants sur le bord du fleuve. Puis ils aperçurent les troupeaux de moutons qui revenaient de gras pâturages. Les mères bêlantes et pleines de lait étaient suivies de leurs petits agneaux bondissants. On voyait partout les ouvriers empressés qui aimaient le travail pour l'intérêt de leur maître doux et humain qui se faisait aimer d'eux et leur adoucissait les peines de l'esclavage. Aristonoüs, ayant montré à Sophronib cette maison, ses esclaves, ses troupeaux et ses terres devenues si fertiles par une soigneuse culture, lui dit ces paroles. « Je suis ravi de vous voir dans l'ancien patrimoine de vos ancêtres. Me voilà content, puisque je vous mets en possession du lieu où j'ai servi si longtemps, Alcine. Jouissez en paix de ce qui était à lui. » Vivez heureux et préparez-vous de loin par votre vigilance une fin plus douce que la sienne. » En même temps, il lui fait une donation de ce bien avec toutes les solennités prescrites par les lois et il déclare qu'il exclut de sa succession ses héritiers naturels si jamais ils sont assez ingrats pour contester la donation qu'il a faite au petit-fils d'Alcine, son bienfaiteur. Mais ce n'est pas assez pour contenter le cœur d'Astinoüs. Avant que de donner sa maison, il orne tout entière de meubles neufs, simples et modestes à la vérité, mais propres et agréables. Il remplit les greniers des riches présents de Cérès et les celliers d'un vin de Chios, digne d'être servi par la main d'Hébé ou de Ganymède à la table du grand Jupiter. Il y met aussi du vin pramnien avec une abondante provision de miel d'Hymette et d'Hybla et d'huile d'Attique presque aussi douce que le miel même. Enfin, il y ajoute d'innombrables toisons d'une laine fine et blanche comme la neige, riche dépouille des tendres brebis qui paissaient sur les montagnes d'Arcadie et dans les gras pâturages de Sicile. C'est dans cet état qu'il donne sa maison à Sophronime. Il lui donne encore 50 talents hébriques et réserve à ses parents les biens qu'il possède dans la péninsule de Clazomène, aux environs de Smyrne, de Lébédé et de Colophon, qui étaient d'un très grand prix. La donation étant faite, Aristonoüs se rembarque dans son vaisseau pour retourner dans l'Ionie. Sophronime, étonné et attendri par des bienfaits si magnifiques, l'accompagne jusqu'au vaisseau, les larmes aux yeux, le nommant toujours son père et le serrant entre ses bras. Aristonoüs arriva bientôt chez lui par une heureuse navigation. Aucun de ses parents n'osa se plaindre de ce qu'il venait de donner à Sophronime. « J'ai laissé, leur disait-il, pour dernière volonté dans mon testament, cet ordre que tous mes biens seront vendus et distribués aux pauvres de l'Ionie, si jamais aucun de vous s'oppose au don que je viens de faire au petit-fils d'Alcine. » Le sage vieillard vivait en paix et jouissait des biens que les dieux avaient accordés à sa vertu. Chaque année, malgré sa vieillesse, il faisait un voyage en Lycie pour revoir Sophronime et pour aller faire un sacrifice sur le tombeau d'Alcine qu'il avait enrichi des plus beaux ornements de l'architecture et de la sculpture. Il avait ordonné que ses propres cendres, après sa mort, seraient portées dans le même tombeau afin qu'elles reposassent avec celles de son cher maître. Chaque année, au printemps, Sophronime, impatient de le revoir, avait sans cesse les yeux tournés vers le rivage de la mer pour tâcher de découvrir le vaisseau d'Aristonoüs qui arrivait dans cette saison. Chaque année, il avait le plaisir de voir venir de loin, au travers des ondes amères, ce vaisseau qui lui était si cher, et la venue de ce vaisseau lui était infiniment plus douce que toutes les grâces de la nature renaissant au printemps, après les rigueurs de l'affreux hiver. Une année, il ne voyait point venir, comme les autres, ce vaisseau tant désiré. Il soupirait amèrement. La tristesse et la crainte étaient peintes sur son visage. Le doux sommeil fuyait loin de ses yeux. Nul mets exquis ne lui semblait doux. Il était inquiet, alarmé du moindre bruit, toujours tourné vers le port. Il demandait à tout moment s'il n'avait point vu quelque vaisseau venu d'Ionie. Il en vit un, mais hélas, Aristonoüs n'y était pas. Il ne portait que ses cendres dans une urne d'argent. Amphiclès, ancien ami du mort, et à peu près du même âge, fidèle exécuteur de ses dernières volontés, apportait tristement cette urne. Quand il aborda Sophronime, leur parole leur manqua à tous deux, et ils ne s'exprimèrent que par leurs sanglots. Sophronime, ayant baisé l'urne et l'ayant arrosée de ses larmes, parla ainsi. « Ô vieillard, vous avez fait le bonheur de ma vie, et vous me causez maintenant la plus cruelle de toutes les douleurs. Je ne vous verrai plus. La mort me serait douce pour vous voir et pour vous suivre dans les Champs-Élysées, où votre ombre jouit de la bienheureuse paix que les dieux justes réservent à la vertu. Vous avez ramené en nos jours la justice, la piété et la reconnaissance sur la terre. Vous avez montré dans un siècle de fer la bonté et l'innocence de l'âge d'or. Les dieux, avant que de vous couronner dans le séjour des justes, vous ont accordé ici-bas une vieillesse heureuse, agréable et longue. Mais hélas, ce qui devrait toujours durer n'est jamais assez long. Je ne sens plus aucun plaisir à jouir de vos dons, puisque je suis réduit à en jouir sans vous. Ô chère ombre, quand est-ce que je vous suivrai? Précieuse cendre, si vous pouvez sentir encore quelque chose, vous ressentirez sans doute le plaisir d'être mêlée à celle d'Alcine. Les miennes s'y mêleront aussi un jour. En attendant, toute ma consolation sera de conserver ces restes de ce que j'ai le plus aimé. Ô Aristonoïs, non, vous ne mourrez point, et vous vivrez toujours dans le fond de mon cœur. Plutôt m'oublier moi-même que d'oublier jamais cet homme si aimable, qui m'a tant aimé, qui aimait tant la vertu à qui je dois tout. Après ces paroles entrecoupées de profonds soupirs, Sophronibe mit l'urne dans le tombeau d'Alcine. Il immola plusieurs victimes dont le son inonda les autels de gazon qui environnaient le tombeau. Il répandit des libations abondantes de vin et de lait. Il brûla des parfums venus du fond de l'Orient. Et il s'éleva un nuage odoriférant au milieu des airs. Sophronibe établit à jamais, pour toutes les années et dans la même saison, des yeux funèbres en l'honneur d'Alcine et d'Aristonoïs. On y venait de la Carie, heureuse et fertile contrée, des bords enchantés du Méandre, qui se joue par tant de détours et qui semble quitter à regret le pays qui l'arrose, des rives toujours vertes du Kerstre, des bords du Pactole, qui roulent sous ses flots un sable doré de la Pamphylie, que Gérès, Pomone et Flore ornent à l'envi. Enfin, des vastes plaines de la Cilicie, arrosées comme un jardin par les torrents qui tombent du mont Taurus, toujours couverts de neige. Pendant cette fête si solennelle, les jeunes garçons et les jeunes filles, vêtus de robes traînantes de lin plus blanches que les lys, chantaient des hymnes à la louange d'Alcine et d'Aristonoïs. Car on ne pouvait louer l'un sans louer aussi l'autre, ni séparer deux hommes si étroitement unis même après leur mort. Ce qu'il y eut de plus merveilleux, c'est que dès le premier jour, pendant que Sophronibe faisait les libations de vin et de lait, un myrte, d'une verdure et d'une odeur exquise, naquit au milieu du tombeau et éleva tout à coup sa tête touffue pour couvrir les deux urnes de ses rameaux et de son ombre. Chacun s'écria qu'Aristonoïs, en récompense de sa vertu, avait été changé par les dieux en un arbre si beau. Sophronibe prit soin de l'arroser lui-même et de l'honorer comme une divinité. Cet arbre, loin de vieillir, se renouvelle de 10 ans en 10 ans, et les dieux ont voulu faire voir par cette merveille que la vertu qui jette un si doux parfum dans la mémoire des hommes ne meurt jamais.